Temps, contre-temps. Une émission de Canal Académie, Virginia Crespo et ses invités.
Bonjour, vous êtes à l'écoute de Temps contre temps sur Canal Académie. Cette émission vous propose en alternance soit un parcours de 30 minutes avec un académicien ou une académicienne dans le but de mieux le connaître dans sa vie, dans ses convictions, dans ses engagements, et ce sera le cas aujourd'hui, soit une mise en discussion entre un académicien et un étudiant. Aujourd'hui donc, Temps contre temps a le grand plaisir de vous faire rencontrer pendant 30 minutes Bernard d'Espagna. Bonjour Bernard d'Espagna, vous êtes physicien, grand spécialiste de physique des particules. Alors Bernard d'Espagna, qu'est-ce que le mot enfance, adolescence évoque pour vous? Où avez-vous grandi?
Oui, il faut que je vous parle un peu, en effet, de ma famille. C'est important pour tout le monde et en particulier pour moi. Mon père était peintre. Un peintre assez significatif. Son nom n'a pas atteint le grand public, mais pour les amateurs de peinture et qui s'intéressent à la peinture post-impressionniste, le nom de Georges d'Espagna dit quelque chose, aussi bien en France qu'en Amérique. Il a d'ailleurs une toile au musée d'Orsay. C'était un homme très cultivé et il vivait à une époque de haute culture. Une époque où on peut dire que Paris était un des centres mondiaux, probablement même le centre mondial le plus important de la culture. Et mon père était très immergé dans ce milieu-là. Il avait des amis peintres, naturellement, des camarades, parmi lesquels certains peintres actuellement très connus, comme Pierre Bonnard, par exemple, qui était un vieil ami, qui sont restés amis pendant toute leur existence. Parmi les littérateurs, il avait aussi beaucoup d'amis, dont Paul Valéry, qui était un ami très proche, et également parmi les compositeurs de musique. Il connaissait Ravel, il connaissait Albert Roussel, dont il a fait le portrait, et Florent Schmitt et d'autres. Quoi. Donc il était très immergé dans ce milieu-là, et il m'en parlait, naturellement. Du côté de ma mère, c'était différent. Elle était d'un milieu beaucoup plus traditionnaliste, mais c'était une femme à la fois sensible et intelligente, et qui s'intéressait à la philosophie, qui s'était passionnée pour Bergson, qui avait beaucoup lu, donc Bergson, qui m'a donné des livres de Bergson à lire. Et voilà, alors ajoutez à ceci le fait que j'étais fils unique. Donc j'ai vécu dans un milieu qui me préparait à des activités culturelles, mais pas spécialement à des activités scientifiques. C'était beaucoup plus des questions de littérature, d'art, de poésie, etc. Et alors, ça ne vous étonnera pas, j'ai été, dans mon adolescence, très passionné par la poésie dans laquelle je cherchais la vérité. J'étais à ce point passionné par la poésie que j'étais convaincu que cette poésie nous apportait une certaine vérité supérieure, d'un autre ordre à la vérité que la vérité quotidienne, n'est-ce pas?
Vous étiez quel genre de petit garçon? Introverti,
oui,
extraverti?
Tout à fait introverti. Je n'ai jamais tapé dans un ballon de ma vie, je crois. Et bon, vous connaissez d'autres petits garçons, naturellement. Mais ce n'était pas pour moi du tout l'essentiel. L'essentiel, c'était bon, ce genre d'activité, de réflexion que je viens de vous dire. Alors, au point de vue études, mes études secondaires, je les ai faites au lycée Condorcet, qui était un très bon lycée à l'époque. Je suis persuadé qu'il l'est toujours, mais en tout cas, à l'époque, il était très bon, avec d'excellents professeurs. Et Bon, j'y ai également beaucoup, j'en ai beaucoup retiré, si vous voulez. J'ai beaucoup retiré d'abord de ma famille et ensuite du lycée.
Et ce goût des sciences est venu
comment ? Alors, ce goût des sciences, bon, il n'est pas d'ancêtre qui ait été scientifique, à ma connaissance, je n'en vois pas. Mais ce contact que j'avais avec mon père me donnait le goût, par imitation évidemment, d'être créateur. Mais pas d'être créateur d'industrie ou d'entreprise ou de choses comme ça, être créateur dans le domaine culturel. En poésie, en littérature, en philosophie, en sciences, là, on pouvait hésiter, vous voyez. On pouvait hésiter et...
Il y aurait un dénominateur commun entre le monde de la peinture et le monde scientifique ?
Le dénominateur commun que je vois, c'est ce désir d'être créateur dans le domaine culturel. Et c'est le seul que je vois, mais je crois qu'il est, je le ressens comme ayant été fort, vous voyez. J'avais envie d'être créateur dans le domaine culturel et... Comme j'étais, bon, ça marchait, si vous voulez, assez bien, à la fois le côté lettres et côté sciences, je pouvais hésiter. Ce qui s'est passé, je crois aussi, c'est ceci. Comme vous l'avez dit, j'étais passionné de poésie, je pensais que la poésie devait nous donner la vérité. Mais est-ce que c'était vrai ? C'était pas sûr, vous voyez ? Et c'était d'autant moins sûr que au lycée Condorcet, mes professeurs de sciences m'apprenaient que la vérité, ben, c'était des atomes, des champs électriques, des choses comme ça.
Le scientifique naissait.
Oui, c'est ça. Alors, il fallait étudier la question. Et c'est ça qui, finalement, m'a poussé à étudier la question, effectivement, c'est-à-dire à faire le choix de la recherche scientifique.
Et dans ce livre paru chez Fayard, intitulé « Traité de physique et de philosophie », c'est en philosophe que vous vous plaisez, justement, à réfléchir. À un moment de votre vie, est-ce qu'il y a eu un choix douloureux, peut-on dire, à faire entre la physique et la philosophie ?
Non, il n'y a rien eu de douloureux en ce qui me concerne, mais une perplexité, oui, incontestablement. À la fin de mes études secondaires, à l'époque, on avait le choix entre un baccalauréat de philosophie et un baccalauréat de mathématiques. Et on pouvait éventuellement faire les deux par dérogation. Et moi, j'ai fait les deux ensemble. Donc, j'ai prolongé d'un an, si vous voulez, la difficulté du choix. Mais ensuite, il a bien fallu choisir. Et j'ai choisi la science, je crois, autant que je me rappelle, pour des raisons que je viens de vous dire. Et aussi parce que je crois que, quand même, je voyais déjà bien que chez les philosophes, ou chez certains philosophes en tout cas, il y avait un manque de rigueur qui me gênait. Il y avait un côté de verbalisme qui me gênait. J'avais été suffisamment éduqué en sciences pour voir que fallait être rigoureux, n'est-ce pas ? Et c'est aussi une raison supplémentaire qui m'a fait choisir cette voie.
Vous avez donc été professeur honoraire à l'université d'Orsay.
Été professeur d'abord, avant d'être professeur.
Bien sûr. Et vous avez également enseigné la philosophie des sciences en Sorbonne.
Oui. Donc
le mot transmission vous parle. Vous avez consacré une partie de votre vie à transmettre.
Oui, oui, oui. Ah oui, absolument. Parce que je continue. Vous voyez, la raison de mes livres, c'est ça. C'est que j'ai le sentiment... peut-être prétentieux, mais d'avoir quelque chose à transmettre. Et je me rends compte que c'est très difficile de transmettre, et donc je fais des efforts dans ce sens.
Donc, l'idée importante que vous venez de développer, c'est à partir de cette culture artistique forte transmise familialement,
oui.
Le sens de la création se retrouve à travers les arts et les sciences,
oui,
pour l'humanité.
Oui, 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 tout à fait. Oui.
Que pensez-vous justement de cette phrase d'Aristote, « Ce qui poussa les hommes aux recherches philosophiques était l'étonnement ».
Eh bien, c'est une idée que j'ai entendue exprimée par beaucoup de personnes intéressées par la philosophie, par la quête philosophique, soit en tant que professionnel, soit en tant que simplement honnête homme, n'est-ce pas ? Je ne savais pas que la phrase venait d'Aristote, mais je suis ravi de l'apprendre. Et bien entendu, je suis tout à fait d'accord. Effectivement, dès que on s'abstrait du quotidien, de l'agitation, etc., et qu'on rentre un peu en soi-même, eh bien, on s'aperçoit en effet qu'il y a des quantités de choses, même les choses les plus simples, qui paraissent aller de soi parce qu'on y est habitué, mais on se rend compte que c'est simplement parce qu'on y était, on y est habitué et qu'il y a pas de raison profonde pour qu'il en aille ainsi et pas autrement. Et à ce moment-là, on commence à se poser des questions et on philosophise, effectivement.
Et la physique quantique continue de vous étonner ?
Ah oui, la physique quantique continue de m'étonner, bien sûr.
En quelques phrases, vous pourriez nous résumer ces spécificités ?
Oui, je peux essayer, mais là on entre dans le vif du sujet, il en faudra peut-être plus que quelques phrases, mais enfin je vais essayer d'être aussi concis que possible. Je dirais que la physique et la science en général, depuis l'avènement de la science moderne, c'était depuis le début du XVIIe siècle, a été axé sur une certaine conception qui est que, au moyen d'expériences et de réflexions astucieuses, on doit pouvoir arriver à décrire le monde, en tout cas le monde physique, tel qu'il est, au moyen d'idées simples, d'idées qui ne sont pas des idées philosophiques, qui sont des idées de tous les jours. Descartes exprimait ça en disant qu'il fallait tout décrire au moyen d'idées claires et distinctes. Et il citait la position, la forme et le mouvement. Il disait « j'en vois pas d'autre ». Ensuite, on a rajouté la force, etc. Mais ce sont des idées que tout le monde a. C'était en réaction avec un excès de philosophie qui venait de la scolastique. Et ça a marché. Ça a marché en ce sens que, réellement, pendant 3 siècles, on a pu décrire les choses dans ce schéma-là. Et ça a marché très bien. On a fait des grandes découvertes très importantes pour notre vie quotidienne, l'électricité par exemple, n'est-ce pas ? À l'intérieur de ce schéma-là, développé naturellement, rendu un peu plus subtil, mais essentiellement ce schéma-là. Et puis, on s'est aperçu, au début du XXe siècle, vers les années 1920-1930, que tout d'un coup, ça ne marchait plus. Vis-à-vis des nouvelles découvertes qu'on faisait, qui portaient sur des choses qu'on n'avait pas pu voir avant, n'est-ce pas, des molécules, des atomes, etc., on s'est aperçu qu'à ce moment-là, ça ne marchait plus. Que la mécanique newtonienne, qui était le parangon de cette manière de voir, ne marchait plus. Elle donnait des prédictions fausses. Les gens se sont donné un mal de chien pour essayer d'en tirer des prédictions exactes, mais il n'y avait pas moyen. Les gens les plus brillants, intelligents, se sont cassés les dents là-dessus. Alors, il a donc fallu trouver autre chose. Et les fondateurs de la mécanique quantique ont justement trouvé cette autre chose, à savoir la mécanique quantique, qui est une théorie fondamentale, une théorie cadre, comme l'était la mécanique newtonienne, mais basée sur des idées tout à fait différentes. Et alors, ce qui est surprenant là-dedans, pour répondre à votre question, c'est que, eh bien, les idées sur lesquelles on se fonde dans cette mécanique sont tellement différentes de celles que je viens de vous dire que, finalement, on n'arrive plus dans cette mécanique à décrire vraiment le réel tel qu'il est. Et je vous citerai une phrase de Heisenberg, qui est un des grands créateurs de cette mécanique quantique, je l'ai notée là. Heisenberg disait « Les scientifiques ont dû se rendre à l'évidence que leur science n'est qu'un maillon de la chaîne infinie des dialogues entre l'homme et la nature, et ne peut plus parler simplement d'une nature en soi. » Alors c'est une grosse révolution. C'est une révolution, seulement il faut comprendre que Heisenberg, à l'époque, quand il disait ça, c'était un pionnier. Lui, il avait réalisé ça, et certains autres avec lui avaient réalisé ça, mais l'immense masse des scientifiques ne l'avait pas réalisé du tout. Et encore, ça reste encore maintenant, vous savez, les contacts entre les différentes sciences sont difficiles. Les gens sont très occupés, bon, ils n'ont pas le temps de communiquer entre eux sur ce genre de sujet-là. Donc, parmi les scientifiques qui ne sont pas des physiciens, je crois vraiment qu'encore la grande majorité est restée dans l'ancien schéma mécaniciste cartésien. Et parmi les physiciens eux-mêmes, il y en a beaucoup qui réagissent en disant « oui, il y a un problème, c'est vrai, c'est mystérieux. La mécanique quantique, dans le fondement, c'est mystérieux, d'accord. Mais on ne va pas s'en occuper parce qu'on a d'autres choses à faire. » Et ça se défend très bien parce qu'en effet, la mécanique quantique, ça a été une source de choses à faire absolument incroyable. Ça a permis des quantités de découvertes, ça. On cite toujours le laser parce que c'est l'idée qui vient à la première esprit, mais quantité d'autres. Et donc, il fallait faire ces découvertes. Et c'était ça le vrai travail des physiciens, n'est-ce pas, beaucoup plus que de faire de la philosophie sur des fondements conceptuels. Donc, on comprend très bien qu'il l'ait fait, mais ça fait que cette espèce de révolution lente, si vous voulez, a bien longtemps à se propager. Et puis, il faut ajouter à ça aussi que, à l'époque de Heisenberg, son affirmation là, sur l'impossibilité d'atteindre une nature en soi pouvait encore être contestée. C'est-à-dire qu'on pouvait trouver des échappatoires. Vous voyez depuis, on a fait beaucoup de progrès, et ces progrès, ces découvertes nouvelles, théoriques et expérimentales, n'ont fait que confirmer ce que disait Heisenberg. Par conséquent, la révolution continue, si vous voulez.
Bernard Despagna, nous marquons une petite pause et nous nous retrouvons tout de suite après.
Vous écoutez Canal Académie.
Ouvrir et découvrir les livres des académiciens, c'est ce que vous propose tous les jours Radio Canal Académie. À différentes heures de la journée, les membres de l'Académie des sciences morales et politiques vous parlent de leurs écrits, notamment historiques, philosophiques et économiques. Les livres des académiciens, leurs lectures, les prix qu'ils décernent chaque année, Radio Canal Académie leur donne la parole. Connectez-vous et écoutez.
Nous reprenons le cours de Temps contre Temps en compagnie aujourd'hui de Bernard Despagna. Bernard Despagna, vous posez la question, la physique quantique rend-elle obsolète les grands systèmes philosophiques traditionnels? C'est une question d'importance.
Oui, c'est une question importante, effectivement. Je pense qu'elle en met en question certains, oui, mais pas tous. Elle met en question le matérialisme scientifique. Incontestablement, parce que le matérialisme scientifique est très fortement lié à ce mécanicisme dont nous venons de voir qu'il est dépassé. Donc, je crois qu'on peut dire que ça, vraiment, c'est une philosophie qui est éliminée par la physique actuelle. Vous me direz que les philosophes l'avaient déjà plus ou moins éliminé, mais enfin, bon, c'est important de savoir qu'il y a des raisons scientifiques de l'éliminer. Je pense aussi que la physique contemporaine met en difficulté les théories philosophiques fondées ou dérivées plus ou moins de l'approche d'Aristote, pour des raisons que, bon, nous n'avons pas le temps de développer aujourd'hui. En revanche, je pense que les philosophies qui sont plus ou moins axées sur la pensée de Platon et de ses successeurs, elles restent porteuses, naturellement avec toutes les modifications qu'il faut rapporter. Naturellement, en 2000 ans, on a fait des progrès quand même, heureusement, on a acquis des connaissances qu'on n'avait pas. Mais je pense que dans cette voie-là de la philosophie platonicienne, il y a encore des choses intéressantes.
Bernard d'Espagna, en tant que spécialiste éminent de la physique quantique, est-ce que vous nous aviez confié tout à l'heure que le fait d'entrer en poésie vous avait fait penser à un moment donné de votre vie que vous pouviez, grâce à ce biais, avoir accès à une certaine vérité des choses. Par le biais de la physique, pensez-vous pouvoir avoir peut-être accès à une vérité ?
Non, je ne pense pas vraiment. Je pense que la physique rouvre plutôt une porte que on avait cru à un moment fermée. Tout simplement parce que quand on a cru qu'on pouvait tout expliquer au moyen de concepts très simples, d'idées de la vie courante, les gens sérieux, les gens qui ne sont pas des rêveurs, ont dit, eh bien, puisqu'on peut tout si bien expliqué rien qu'avec des idées de la vie courante, c'est pas la peine d'aller chercher dans la poésie, c'est pas la peine d'aller chercher dans la philosophie, c'est pas la peine d'aller chercher dans Platon. Hein? Je pense que du fait que ce mécanicisme a échoué, les portes sont rouvertes. On a ouvert, si vous voulez, une fenêtre dans une sorte de prison où nous ne savions pas que nous étions sans le savoir. Mais la physique ne nous dit pas, ne nous décrit pas le paysage qu'on voit à travers cette fenêtre. C'est là, je crois, sa limitation, si vous voulez.
Dans le traité de physique et de philosophie, paru chez Fayard, vous écrivez: le tréfonds des choses n'est pas accessible à la connaissance discursive. Alors, dites-nous, qu'est ce tréfonds des choses et comment y accéder alors ?
Je ne peux pas vous dire comment y accéder, puisque je viens justement de dire qu'on n'y accède pas. Mais ce que je vous dirais, c'est que le tréfonds des choses, encore faut-il savoir ce qu'on entend par là. Le mécaniciste entendait par là des choses finalement très banales, comme nous venons de dire, n'est-ce pas ? Donc, si le mécanicisme avait été vrai, le tréfonds des choses aurait effectivement été accessible, mais en même temps pas très exaltant. Actuellement, nous nous apercevons donc que ce n'est pas vrai. Donc, ou bien on prend un point de vue qui est pris par certains philosophes, qui consiste à dire « ce tréfonds des choses est inaccessible, mais inintéressant ». Ces raisins sont trop verts, si vous voulez, n'est-ce pas ? Il est inaccessible, donc on ne va pas s'y intéresser. C'est un point de vue qui me paraît difficile à défendre pour plusieurs raisons. Je crois que on n'a pas le temps d'entrer dans les raisons.
Mais page 11, vous nous parlez vous-même d'absolu.
Donc, je pense qu'on doit garder l'idée d'un tréfonds des choses et que ce tréfonds des choses demeure fondamentalement inaccessible. On peut essayer de le deviner, mais on peut peut-être penser qu'on peut y accéder justement par la poésie ou des choses analogues, mais ça, c'est une, conjectures, n'est-ce pas ? On ne peut pas prouver scientifiquement, bien entendu. Mais on peut rêver, donc, sur le tréfonds des choses, alors qu'on craignait de ne pas pouvoir rêver sur le tréfonds des choses.
Donc, vous continuez de rêver au mystère du monde, au mystère de notre présence sur Terre ?
Oui. Je crois que c'est effectivement, pour moi, ce qui m'intéresse dans la physique, c'est le fait qu'elle me permette de faire ce genre de choses. Mais je ne voudrais pas inciter tous mes collègues scientifiques à faire la même chose, parce que on a besoin de scientifiques qui fassent vraiment de la science, c'est-à-dire des découvertes dans le domaine strict de la science, et pas tellement de gens qui s'orientent dans la direction que je viens de dire. Néanmoins, je pense que cette direction en soi est intéressante.
Êtes-vous pessimiste ou optimiste, Bernard d'Espagna, par rapport à l'évolution de l'être humain, homme-femme ?
Je suis pessimiste pour des raisons circonstancielles, mais je suis optimiste aussi. Mais les raisons qui me font pencher vers le pessimisme sont de deux sortes. D'abord, c'est le développement de la propagande pour la violence dans les médias. Ça, c'est une chose que je ne peux pas souffrir et qui me choque énormément. Les médias font, à longueur de journée, une propagande pour la violence brute. Il suffit d'ouvrir sa télévision à une heure de grande écoute pour le constater. Même les dessins animés d'enfants, les dessins animés japonais, etc., ce n'est que de la violence. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai connu quand j'étais gosse, et où il y avait des choses jolies, charmantes, gracieuses, disparues. Et de façon plus générale, je constate que la notion de grâce, de beauté, dans le sens de la grâce, a également disparu. Les architectes ne pensent plus qu'à faire du mussolinien, du colossal, et ils ne pensent plus à mettre des petites choses gracieuses comme François Ier en mettait, des petites salamandres sur ses châteaux, c'était joli. Un architecte se croirait déshonoré s'il faisait une chose pareille. Eh bien, ils ont tort. Voilà. Donc ça, c'est ma raison d'être pessimiste. Mais ma raison d'être optimiste, c'est que finalement, l'expérience montre que l'être humain a en lui une possibilité de résistance vis-à-vis de ces agressions-là qui est beaucoup plus grande qu'on ne pense. À l'ère communiste, dans les pays de l'Est, en Russie, des gens ont été persécutés pour leurs idées. On avait cru que ça avait été complètement éradiqué, n'est-ce pas, par ces persécutions sauvages. Et puis ça reparaît. Donc, ça me rend modérément optimiste.
Bernard d'Espagna, merci d'avoir partagé ce temps de parole devant les micros de Canal Académie. Merci. Vous étiez donc au cours de ce temps contre temps en compagnie de Bernard d'Espagna, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, spécialiste de physique des particules. Merci de votre écoute. Au revoir.